Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il a dit de très belles choses sur le labourage et le pâturage. Oui, oui. Il a été avant Richelieu l'un des premiers grands serviteurs de l'État moderne et son nom reste à jamais attaché à celui d'Henri IV. Je vous raconte maintenant Maximilien de Béthune, duc de Sully. Nous sommes le 14 mai 1610 à Paris. En fin d'après-midi, le carrosse d'Henri IV avance péniblement au milieu des encombrements de la petite rue de la Ferronnerie, au cœur de l'actuel quartier des Halles. Comme il fait chaud, Henri IV a demandé à ce qu'on relève les rideaux en cuir sur le trajet qui le mène au chevet de son principal et fidèle conseiller, le duc de Sully, cloué au lit par une vilaine grippe. Mais Henri IV n'y arrivera jamais. Soudain, un grand homme roux se précipite sur la voiture et tue Henri IV de 3 coups de poignard. Écartelé 2 semaines plus tard, Ravaillac ne profitera guère de ce régicide, mais le royaume s'agite déjà. Effondré à l'annonce de la nouvelle de la mort du roi, le duc de Sully est bien placé pour savoir que la France vient d'être à nouveau précipitée dans une période de turbulence. Ravaillac n'a pas seulement assassiné un souverain, ce jour-là, il vient de ruiner le patient effort de redressement engagé depuis 15 ans maintenant par Henri IV et par lui-même, serviteur d'un État qui entre avec lui dans l'ère moderne. Avant Richelieu, avant Mazarin, avant Colbert, avant Louvois, il y a eu Sully donc. Si Sully est à ce point touché par la mort d'Henri IV, c'est parce qu'il vient de perdre un roi et un protecteur, mais surtout un ami, et une amitié qui ne date pas d'hier. 38 ans plus tôt, c'est au Louvre que le tout jeune Maximilien de Béthune, le fils du baron de Rosny et futur duc de Sully, croise Henri de Navarre pour la première fois en juillet 1572. Sully n'a que 13 ans et le Béarnais 18 à peine. Mais les deux hommes vont vivre l'un des événements qui vous marquent ta vie. Alors que les guerres de religion déchirent le pays depuis 10 ans, le protestant Béarnais s'apprête à épouser la catholique Marguerite de Valois. Un mariage qui passe par une conversion de dernière minute pour Henri, mais qui n'est qu'un pur calcul politique, une tentative de réconcilier le royaume. Pour la réconciliation, on repassera. 6 jours après les noces, la Saint-Barthélemy se solde par le massacre de 3000 protestants parisiens. Protégé par son statut de prince du sang, Henri s'en tire in extremis avant de fuir Paris 4 ans plus tard pour prendre la tête des Huguenots. C'est là, dans cette longue lutte, que Sully se met en évidence. Et bien loin de l'image du ministre intègre, froid et un peu ennuyeux qu'on s'en fait aujourd'hui, c'est d'abord comme chef de guerre que Sully se met en évidence pendant 13 longues années de guerre civile. En 1590, à la bataille d'Ivry, Sully est au premier rang pour une bataille décisive qui manque de peu de lui coûter la vie. Le camp des Ligueurs est sur la reculade, mais la guerre peut encore s'enliser. Alors Henri IV écoute les pragmatiques qui lui glissent que Paris vaut bien une messe. Une formule que le roi, en fait, on le sait maintenant, n'a jamais prononcée. Ce qui a bien été écrit, en revanche, c'est ce message de Sully, déjà conseiller de premier plan du roi, qui exhorte le Vert-Galant, comme on le surnomme, à se convertir. « Sire, il ne faut plus tortignonner, aviser de choisir ou de complaire à vos prophètes de Gascogne en nous faisant jouer à sauve qui peut, ou de vaincre la Ligue qui ne craint rien de vous tant que la conversion, gagnant plus en 1 heure de messe que vous ne feriez en 20 années de périls et de labeurs. » Le conseil est entendu. Pour réunir le pays et couper l'herbe sous le pied des extrémistes du camp catholique, Henri de Navarre abjure la foi protestante à Saint-Denis. Le royaume peut commencer à se réconcilier, mais après 40 années de longues guerres de religion, la France est en ruine. Tout est à rebâtir. Henri IV se tourne alors vers ses fidèles les plus capables, et Sully est incontestablement le plus brillant d'entre eux. À sa maîtresse, pourtant adorée, Gabrielle d'Estrées, qui lui reproche de lui accorder trop d'honneur, Henri réplique sèchement « Je me passerai mieux de 10 maîtresses comme vous que d'un serviteur comme lui ». Dès lors, Sully est partout et sur tous les fronts. Il se révèle comme un administrateur et un gestionnaire hors pair, surintendant des finances, surintendant des fortifications et des bâtiments, grand voyer de France, c'est-à-dire responsable des ponts et chaussées. Sully cumule les charges et s'en tire à merveille, bien servi par un remarquable sens de l'organisation. Loin de la finesse d'un Richelieu ou du machiavélisme d'un Mazarin après lui, Sully vient de la noblesse d'épée. C'est un homme cassant et bourru, parfois brutal, mais ça marche. Père de France, gouverneur de la Bastille, grand maître de l'artillerie, le baron de Béthune devient le duc de Sully. En quelques années, Il réussit des miracles financiers à force de tailler dans les dépenses et de pressurer les contribuables, ce qui lui vaut forcément une impopularité record. Mais il peut lancer une politique de grands travaux dont on voit encore aujourd'hui les traces à Paris et dans tout le pays. La place des Vosges, la place Royale à l'époque, la place Dauphine et l'hôpital Saint-Louis, c'est lui. Les grands travaux d'agrandissement du Louvre et des Tuileries, c'est lui aussi. L'aménagement des grands axes routiers et des premiers grands canaux, c'est toujours lui. Tout comme les prémices d'une renaissance de la marine française et les premières grandes manufactures de luxe. Mais sa grande affaire, c'est l'agriculture, clé de la puissance française à ses yeux. Et pour une fois, la citation historique qu'on lui attribue est vraie. Avec cette phrase que Sully a bel et bien écrite, « Labourage et pastourage sont les deux mamelles dont la France est alimentée ». Ce qu'on connaît moins, c'est sa suite. Une suite qui évoque d'ailleurs en creux le seul réel point de désaccord entre Henri IV et son ministre tout-puissant. « Labourage et pâturage sont les mamelles du pays, oui, mais ce sont surtout, dit Sully, les vraies mines et trésors du Pérou. » Autrement dit, à une époque où le Portugal et surtout l'Espagne exploitent à plein leur conquête du Nouveau Monde, Sully ne croit guère à l'avenir des premières poussées françaises au Canada. C'est la seule ombre dans un tableau qui tient de l'entente parfaite, une entente que Ravaillac vient trancher net en 1610. Plus jeune que le Vert-Galant, Sully n'a alors que la cinquantaine et pourrait servir l'État encore longtemps, d'autant que Louis XIII n'a que 9 ans. Mais la régente Marie de Médicis en décide autrement. En 20 ans, Sully s'est fait bien des ennemis et les jaloux l'emportent. Tombé en disgrâce, il espère longtemps un retour aux affaires qui ne viendra jamais. Retiré sur ses terres, enrichi mais désœuvré, Sully passe les 30 dernières années de son existence à peaufiner une œuvre monumentale, les économies royales, un texte qui tient à la fois de l'autobiographie et du manuel politique. Il y prête même à Henri IV ce qu'il appelle le grand dessein, premier embryon d'Europe unifiée dans le cadre d'une confédération chrétienne de 15 États. Mais l'idée est à prendre avec des pincettes. Dans son livre, Sully n'hésite pas à prendre ses aises avec la réalité et travaille autant à la gloire d'Henri IV qu'à la sienne propre.
Europe 1, historiquement vôtre.